Et puis on avait tiré beaucoup de conclusions de tout ça. Et pour en venir au fait que nous, aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous avons besoin de construire notre vie. Nous avons besoin de construire notre vie comme un autel qui va être reconnu et qui sera agréable devant Dieu, afin que, eh bien, il puisse se déverser sur nous, dans nos vies, dans nos cœurs, sur nos familles et notre entourage. S'en est suivi une session de plusieurs dimanches, donc sur la question de marcher dans la victoire. Alors pour ma part, je vous avais parlé du fait que marcher dans la victoire en tant qu'enfant de Dieu, ça veut dire marcher dans la lumière. Et on avait développé plusieurs points en disant que marcher dans la lumière, eh bien selon la parole de Dieu, c'est très clair, c'est une façon de vivre, c'est un style de vie, c'est une consécration, c'est savoir aller dans la présence de Dieu, c'est aussi une certaine rigueur, mais il y a aussi marcher dans les ténèbres. Et là, ça va être plutôt se laisser conduire par tous nos envies, nos désirs, nos pensées qui ne sont pas forcément bonnes et qui vont porter et causer tort à autrui. Comme je vous le dis souvent, le message biblique est simple. Tu prends une baffe, tu tends l'autre joue. Sauf que le message de ce monde n'est pas souvent le même. C'est tu prends une baffe, t'en remets une. Et on voit que ça se reflète souvent dans nos vies, dans nos attitudes. Et pourtant, on doit demander, Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais réagir comme toi. J'aimerais avoir tapé, j'aimerais, malgré les moments difficiles, marcher avec toi. Papa, ensuite, avait parlé eh bien, de marcher comme Élie. Marcher dans la victoire, c'était marcher comme Élie. Vous voyez Élie qui a été appelé par Dieu, il était déprimé, il n'était pas bien. Parfois, quand tu marches, quand tu es dans ton avancement, c'est difficile. Les circonstances sont difficiles, on cherchait à le tuer. Et puis, Dieu lui a parlé, lui a dit, maintenant, eh bien, mange. Dieu va lui faire la popote, va lui concocter un repas, il va dire, mange. Parce que le chemin est trop long pour toi. Ça veut dire que humainement, ce n'est pas possible, mais parce que tu te nourris de moi, parce que tu es proche de moi, parce que je vais marcher avec toi, ce chemin qui est normalement trop long, eh bien, tu vas être capable eh bien, de marcher et de fonctionner. Et il a pu marcher miraculeusement pendant 40 jours et 40 nuits. Je suis incapable. Mais lui a été capable grâce à la puissance de Dieu. Il comptait sur Dieu. Wilfried, la semaine passée, nous a parlé encore de marcher dans la victoire. Et vous vous souvenez, il nous a fait faire un petit exercice où on a dû prendre une photo de nous-mêmes avec notre smartphone. Et puis, il a surtout insisté, il a dit, comment te vois-tu? Comment toi, tu te vois? Comment, eh bien, tu penses que tu es devant Dieu? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que réellement, tu es la personne que tu voudrais être? Et il est parti sur ce verset qui nous dit, examinez-vous vous-même. C'est intéressant ça. Il a dit, c'est pas Dieu qui va t'examiner. Dieu sonde ton cœur, oui, mais c'est à toi de t'examiner. C'est à toi d'examiner quel type d'homme ou de femme tu es et si réellement tu atteins tes objectifs, notamment personnels, mais aussi également avec le Seigneur. Voilà tout ce qu'on a vu. Et pourquoi je vous rappelle tout ça? Parce que je suis convaincu que le Seigneur veut nous parler en tant qu'Église, en tant que personne, mais aussi en tant qu'Église. Et quand Dieu parle, à un moment donné, c'est à nous de mettre en action les choses. Je vous dis ça également parce qu'on a lancé pas mal de choses dans l'Église au niveau des différents groupes. Et en parlant avec les différents leaders, en parlant avec les différentes personnes impliquées dans l'Église, je me rends compte que tout le monde a le feu et que Dieu dit la même chose à chacun. Donc si Dieu dit quelque chose à l'un sans qu'on ait parlé, c'est que vraiment c'est lui. Et qu'on discute, on dit, mais attends, tu te rends compte ce que tu penses? Je suis interpellé par ça ces derniers temps. Donc on voit que Dieu parle. Et quand Dieu parle, eh bien, il suffit d'écouter. Et aussi de se poser les bonnes questions. Donc un petit exemple sur le fait que Dieu parle. Ce matin, je suis venu à l'intercession. On a prié. Donc comme vous le savez, on prie souvent avant le culte, enfin souvent tous les dimanches. Donc de 9h30 à 10h, on prie. Et donc la première chose qu'on a fait, on a remercié Dieu pour qui il est. Et donc j'ai posé la question aux personnes qui étaient là. Je dis, vous savez, une intercession, ça commence déjà quand tu mets le pied dans ta voiture et que tu viens, Dieu commence déjà à te parler à ce moment-là, parce que tu es en train de disposer ton cœur à prier. Rien que le fait d'avoir décidé de venir, c'est que ton cœur se prépare. Quand tu as décidé vendredi de venir à la soirée de louange, ton cœur est en préparation. Et j'ai posé la question, j'ai dit, qu'est-ce que Dieu a déjà déposé sur votre cœur en route? Alors je vais demander un travail de mémoire à Prudence. Prudence, est-ce que tu te souviens des 3 points qui sont sortis ce matin à l'intercession? Si tu t'en souviens pas, je vais demander à ton mari. Alors, viens ici. Tu vas prendre le micro. Tu vas te mettre ici parce que tu es filmé. On te voit. Voilà.
Effectivement, il y avait trois points qui ont été soulevés. La première chose, c'était la consécration, en fait, l'engagement. Dieu nous appelle à nous engager encore plus dans son service, à pouvoir donner de nous-mêmes. Et la deuxième chose, c'était l'intimité avec Dieu. Dieu attend de nous que nous puissions développer encore cette relation d'intimité partout où nous sommes, au travail, à la maison, dans notre petit coin, développer encore plus d'intimité. Et après, la troisième chose, c'était le Seigneur attend que nous puissions vraiment le servir de tout notre cœur, dégager ce qui est au fond de nous, de ne pas être superficiel, mais aller en profondeur avec le Seigneur. Car il y a un passage qui a été soulevé, l'Éternel dit que ces personnes m'honorent de leurs lèvres. Il attend que nous puissions honorer son saint nom du fond de nous avec toute la profondeur que nous avons. Amen.
Amen. Alors vous voyez, il y a ce qui est superficiel et ce qui est en profondeur. Et lorsque j'ai posé cette question, ça m'a beaucoup encouragé parce que j'ai entendu ces trois points. Quand j'ai entendu engagement, j'ai dit tiens, c'est un des paragraphes de ma prédication. Quand j'ai entendu le fond du cœur, ah tiens, c'est un autre paragraphe de ma prédication. Et quand j'ai entendu le troisième point, voilà, d'aller plus en profondeur, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Bah Seigneur, tu parles. Pas seulement Alexis, pas seulement, mais à chacun de tes enfants, tu veux leur parler s'ils désirent réellement écouter. Alors ce matin, on va continuer d'avancer. Et donc, oui, il faut marcher dans la victoire, mais en même temps, il faut agir. Donc le thème de ma prédication ce matin, c'est « Il est temps d'agir ». On va prendre un verset, enfin un passage dans la parole de Dieu. Donc Luc chapitre 14, versets 1 à 6. Alors, Chanel, tu vas m'aider aujourd'hui. La gorge gratte un peu. Donc, tu vas lire pour nous aujourd'hui.
Un jour de sabbat, Jésus était allé dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, et les pharisiens l'observaient. Or, un homme rempli d'œdèmes se trouvait devant lui. Jésus prit la parole et dit aux professeurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non ?» de faire une guérison le jour du sabbat. Ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt, même le jour du sabbat ?» Et ils furent incapables de répondre à cela.
Voilà, donc vous voyez Jésus, il est en action. Il est rentré dans son ministère et il a invité une table. La table des pharisiens. Vous savez que historiquement parlant, les pharisiens, c'est un parti religieux qui avait autorité sur le peuple au niveau, voilà, à différents niveaux. Et donc, eux, lorsqu'ils ont vu Jésus agir, ça ne passait pas très bien parce que Jésus est arrivé avec quand même des façons de faire qui les dérangeaient, puisqu'eux étaient à cheval sur la loi. Le jour du sabbat, pas de guérison, voilà. Ils suivaient les règles. Et puis, ces règles, ça leur permettait aussi, au nom des règles, au nom de Dieu, d'avoir du pouvoir sur les gens. Disons les choses comme elles sont. Au nom de Dieu et au nom des règles écrites dans la parole de Dieu, eh bien, nous avons autorité sur vous. C'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Et donc, il va se retrouver face à ces pharisiens, Jésus, et qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans cette maison, et le premier point qui m'intéresse, c'est « Et les pharisiens observaient Jésus ». Ils l'observaient dans un premier temps parce qu'ils étaient intrigués, mais surtout, surtout pour essayer de trouver une faille chez lui pour l'accabler. Parce que Jésus, eh bien, était pas pour eux, c'était pas correct ce qu'il faisait. Et donc, les pharisiens sont observateurs. Ils sont autour de la table et là, ils regardent. Comment est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il va laver ses mains avant le repas? Est-ce qu'il, tous les rites, est-ce qu'il va observer tous nos rites et nos coutumes? Est-ce qu'il va pas faire quelque chose qui est contre Dieu aujourd'hui? Et on pourra à ce moment-là l'accabler. Et Jésus, il y a une situation. C'est qu'à cette table, il y a quelqu'un de malade. Il y a une réalité. À ce moment-là. Alors Jésus, il va voir ça et là, il va les interroger. Et c'est lui qui va les interroger. Il va aller les chercher non seulement sur ce en quoi ils croient, mais sur ce qu'ils font. Et il va dire, voilà, vous voyez cet homme? Il n'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est le sabbat. On ne peut rien faire. Et là, ils ne vont pas répondre. Et lui, ce qu'il va faire, il va pas seulement parler, mais il va tout de suite agir. Il va passer à l'action et il va guérir cet homme. Face à la guérison, il va leur poser la question maintenant. Et vous, je viens chercher votre cœur. Je ne viens pas chercher qui vous êtes spirituel. Je viens chercher votre cœur. Je ne viens pas juste chercher qui vous êtes superficiellement, mais si ton fils, la chair de ta chair, aujourd'hui, tombe dans un puits, est-ce que c'est tes lois et tes rites qui seront plus importants ou est-ce que réellement tu vas aller chercher? Parce que la religion, les rites, les sectes, parfois viennent complètement mettre un voile sur notre cœur. Et on ne suit plus le cœur, mais on suit les règles, tu vois. Et là, il va venir les chercher sur ça, il vient les chercher sur leur cœur. Qu'est-ce que tu ferais? Et bien là, ils ne savent pas quoi répondre. Parce qu'effectivement, l'amour qu'ils portent pour les choses qui sont les plus précieuses pour eux, eh bien, ils vont quand même se bouger. Donc Jésus, il vient et il perturbe les choses, vous voyez? Mais il amène des vérités. Il amène des vérités non seulement dans la parole, mais dans l'action. Il agit tout de suite. Les pharisiens l'observaient. Mais Jésus, lui, il a agi parce qu'il était rempli d'amour et de compassion pour cet homme. Quand il a regardé, il n'était pas en train de regarder au rite, à la loi de Moïse, mais ce qui l'a animé, c'est l'amour pour cet homme, la compassion. Et là, il a agi en fonction de ça. Alors, on va prendre un autre passage, Luc 4, versets 16 à 22, et puis on reviendra, je vous invite, si vous voulez, chez vous, à lire l'entièreté du chapitre 14, on viendra à la fin. Mais là, j'aimerais qu'on revienne plus tôt. Et vous allez voir Jésus, comment, eh bien, il a commencé un petit peu, il est entré dans son ministère, et ce qui s'est passé. Alors, Jésus se rendit à Nazareth. Chanel, tu peux y aller, parce que... Le micro, ok, vas-y.
Jésus lui répondit.
Non, c'est pas ça. Luc 4, versets 16 à 22. Luc 4, chapitre 4, versets 16 à 22. Toujours pas. Je vais commencer à lire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé.
C'est bon.
C'est bon ?
Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph?
Alors vous voyez ce Jésus qui débarque. Et il aimait bien les embêter les jours du sabbat. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il aimait bien aller les chercher quand même dans leurs rituels, les bousculer un petit peu. Et donc là, il va faire mention de quoi? D'une prophétie qui a été dite bien avant sa venue. Et là, il va juste la lire. Il va dire, celui dont on parle depuis des milliers d'années, c'est moi. Et il va se rasseoir. Il n'en dit pas plus, il n'en dit pas moins. Il dit les Écritures, ce qui a déjà été dit. Ça nous impressionne quand même. Et Jésus s'annonce à ce moment-là, finalement, comme celui qui est venu accomplir la parole de Dieu et qui est venu en tant que messager du Père pour l'humanité. Impressionnant. Et vous voyez, ce qui va m'intéresser ici, c'est que du coup, on va parler de cette dernière phrase. On va dire, tous s'interrogèrent, n'est-il pas le fils de Joseph? Ce petit gamin qu'on a vu grandir, ce petit gars-là, qui était avec son père, qui a commencé à apprendre à utiliser les outils. Jésus n'était pas connu à ce moment-là. Personne ne le connaissait. Et à ce moment-là, Jésus n'attirait pas grand monde. Tant qu'il était charpentier, parce qu'avant d'être charpentier, il était élève, il a appris avec Joseph, c'était son métier. Et Jésus, finalement, il a appris un métier, il n'était pas connu. Il était connu de sa famille, des gens qui l'entouraient et des gens qui avaient besoin des services de son savoir-faire et de la construction. Mais ce n'était pas un homme connu, renommé. Personne n'était attiré par lui spécialement. C'était un gars comme tout le monde. Alors Jésus, tu vois, c'est le genre de gars, à ce moment-là, on allait le voir et on lui disait, Waouh, Jésus, c'est incroyable ton travail. Quel métier de courageux. Et vraiment, c'est admirable. Mais je peux t'assurer qu'il n'y avait pas beaucoup de disciples. Parce que personne n'avait envie de faire ce qu'il fait. Hein, Nico, quand les gens ils viennent travailler une semaine avec toi, ils sont là, waouh, t'es courageux. Hein. Ils font demi-tour et ils vont faire autre chose. Parce que quand c'est difficile, on va voir ailleurs. Et vous savez, pendant tout un temps, on parle de Jésus, voilà, on le voit grandir. Et d'un coup, on n'entend plus parler de son père, enfin de son père, de Joseph, son père adoptif, on va dire. Et on n'entend plus parler de Joseph dans les Écritures, c'est un mystère. D'un coup, Joseph disparaît. Joseph disparaît littéralement des Écritures, vous ne voyez plus. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé. Alors sur ça, il y a beaucoup de... On peut discuter longtemps, il y a eu des théories, mais finalement, ça reste un mystère. Mais quand je comprends comment était Jésus, et je me dis, Jésus, c'était quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui a appris à la dure. C'est quelqu'un qui a vécu dans une famille. C'est quelqu'un qui était en tout point courageux, qui, quand il s'engageait, il allait au bout des choses. Jésus, c'était, même en tant qu'homme, pleinement homme, c'était la perfection. C'était celui avec qui, tu n'avais pas de problème, tu vois, Jésus. Et Joseph disparaît. Et moi, je me suis posé la question, et quand j'ai lu dans les Écritures, je me suis rendu compte que souvent, on dit « fils de charpentier, fils de charpentier, fils de charpentier, fils de charpentier ». Et à partir du moment où on n'entend plus parler de Joseph, on dit « Jésus, le charpentier ». Et là, tu changes de statut. Tu passes du disciple au maître. Et souvent, on dit « mais pourquoi Jésus, 34 ans, son ministère ?» Il y a plein de théories aussi là-dessus. Mais moi, je peux vous assurer qu'à la disparition, peu importe laquelle, de Joseph, eh bien, qui a tenu la baraque? C'est Jésus. C'est Jésus qui a bossé, parce qu'à l'époque, ne pas avoir de travail, être malade, eh bien, tu mourais sur place, parce que tu ne pouvais pas subvenir à tes propres besoins. Eh bien, c'est lui, pour moi, c'est mon interprétation, qui a tenu la baraque pendant quelques temps, jusqu'à ce que les plus petits derrière lui, ils puissent leur transmettre le savoir-faire. Et une fois que la sécurité du foyer était assurée, eh bien là, vous avez Jésus qui arrive et qui dit « Maintenant, je vais passer à autre chose. J'ai eu ma vie en tant qu'homme. Maintenant, je vais m'occuper de mon ministère. » Parce qu'il y a une question à l'époque, on transmettait le savoir-faire de père en fils parce que c'était une question de survie. Si j'étais sûr que mon enfant était capable de s'en sortir dans la vie, eh bien, tant mieux. Il y avait un savoir-faire. Aujourd'hui, on fait des études, c'est bien. Et là, on transmettait un savoir-faire. Alors voilà ce que je me dis. Et je me dis, Jésus, tu étais admirable à ce moment-là, mais tu n'étais pas très attirant parce que ce que tu faisais, ce n'était pas facile. C'était les responsabilités, la fidélité, tu vois, tous ces concepts qui aujourd'hui n'intéressent plus trop les jeunes. Et ça, c'était Jésus. Et plus haut dans le texte, on lit que Jésus est venu, pourquoi? Pour libérer les captifs. Et à ce moment-là, il va s'annoncer dans la synagogue, c'est le moment, on commence les gars, c'est parti. Et puis on a lu ce premier passage, dans Luc 14, où Jésus commence. Bon alors, il y a eu plusieurs miracles entre-temps, mais je vous ai lu ce passage-là, où il va annoncer, il va agir maintenant, c'est plus juste la parole. Il parle, il agit, il secoue un petit peu les mentalités, et en même temps, il montre ce qu'est réellement la parole de Dieu. Et vous allez voir plus tard, on a ce Jésus qui est là et qui dans Luc 14, il va manger et il va commencer à parler beaucoup en paraboles. Vous savez que les paraboles, c'est un moyen pour Jésus de raconter des réalités spirituelles avec quelque chose de très accessible. Et il dira toujours que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est-à-dire, je vous le dis, maintenant, si tu as les oreilles pour entendre, t'entends et cette parole va prendre vie en toi. Ça, c'était le principe de Jésus. Parce que s'il commençait à parler spirituellement, personne n'aurait rien compris. Donc il parlait beaucoup en paraboles. Et donc là, vous avez Luc 14 qu'on a lu, il va commencer avec beaucoup, 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 beaucoup de paraboles. Entre-temps, on se passe beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La renommée de Jésus, elle va exploser. Quand il commence à entrer dans son ministère, c'est plus juste le fils de Joseph, c'est plus juste le charpentier ou le fils du charpentier. Là, on va dire, allez voir ce qui se passe parce que c'est incroyable. Il guérit les malades. Il purifie les lépreux. Les aveugles voient maintenant dans sa présence. C'est incroyable ce qui se passe. Les gars, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. C'est le dernier concert de Coldplay, tu vois, tout le monde veut y aller. C'est le truc à la mode dans la région. Il fait des trucs incroyables. Il ne s'arrête pas à la guérison. Il ressuscite les morts maintenant. C'est impossible ce qu'il fait. Il multiplie les pains. Il y a des miracles. La renommée explose. C'est le premier sur TikTok, Instagram. Il y a des millions de followers. On veut voir ce qu'il fait. On l'observe. Vous avez d'un côté les pharisiens qui regardent comment est-ce qu'on va pouvoir lui tomber dessus. Et d'un côté, tous ceux qui sont là, Jésus, Jésus, ils ont des t-shirts. Ils sont à fond. Ils suivent des kilomètres durant. Jésus est obligé de faire des miracles pour leur donner à manger. Et Jésus supporte ça. Il dira même aux gens, dites pas ce que j'ai fait parce qu'il y en a marre quelque part. Il sait ce qu'il doit faire. Mais Jésus sait pourquoi la foule le suit. Il sait pourquoi la foule le suit. La foule le suit uniquement par intérêt et pas par amour pour lui. La foule le suit par intérêt personnel pour voir la main de Dieu en action. Pour être le premier à le voir. Pour faire un selfie avec Jesus. C'est par intérêt à ce moment-là. Luc 14, verset 25, donc on est à la fin du chapitre 14. Deux grandes foules faisaient route avec Jésus. Les foules, là, Jésus, il était super attirant. Parce que tu vois, moi, j'avais un mal de dos et je sais que si je vais vers lui, peut-être qu'il va me guérir, ça va aller mieux. J'ai des problèmes. Et la foule le voyait comme le réparateur en toute chose, celui qui peut m'apporter le petit plus dans ma vie. Et ça va durer comme ça des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et vous voyez toujours Jésus qui va souvent laisser la foule et va se tourner. Vous parlez d'intimité, il va se tourner et il va partir seul et il va se confier à son Père. Pour ne pas perdre d'objectif ce pourquoi il était venu. Et on l'a lu l'objectif. L'objectif, c'est de venir pour libérer les captifs. Et à un moment donné, Jésus va se retourner, la foule est derrière lui, le suit, et il va se retourner et il va leur dire. Le verset suivant, s'il te plaît. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. Maintenant, il dit, c'est bon. La foule, c'est bon. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Et il dit ça à la foule. Jésus ne cherchait pas la popularité parce que si tu dis ça à une foule, je peux te dire que tu n'es pas aimé. Tu n'es pas aimé quand tu dis ça. Il dit maintenant, les gars, c'est bon, vous m'avez suivi, vous avez vu la main de Dieu. Celui qui veut être mon disciple, voilà ce qu'il faut faire. C'est encore un message assez dur. Moi, quand je dis, je me pose la question, ah ben, je dois aimer plus Jésus que ma femme. Je dois aimer plus Jésus que mes enfants. C'est des paroles dures. C'est encore des paroles dures pour nous aujourd'hui. C'est encore des paroles difficiles à comprendre intellectuellement. Intellectuellement, ça ne passe pas. Ça ne passe pas intellectuellement. Pierre, ton petit enfant nouveau-né, Jésus devant. Passe pas. Humainement, ça passe vraiment pas. C'est difficile à digérer. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu nous dire par là? Cette foule intéressée essentiellement par voir la main de Dieu, à un moment donné, Jésus se retourne. Écoutez, si vous voulez être mon disciple, je vous rappelle que Jésus lui-même a été disciple de Joseph. Il sait ce que c'est être un disciple. Il sait ce que ça demande de se contraindre, que ça demande un engagement. Que ça demande de regarder comment ça se passe, de comprendre le savoir-faire, que ça demande de sortir du côté intellectuel et de mettre la main à la pâte. Ça demande de sortir du côté observateur. Je suis dans l'église, je regarde comment le culte se passe. Ah, moi, j'aurais fait comme ça. Ah, lui, comment il réagit? Non, non. La Bible, elle dit ça, tu vois. Toujours caché derrière des choses, mais mets la main à la pâte. Et Jésus, il sait qu'il faut mettre la main à la pâte, que le savoir-faire, ça s'acquiert en mettant les mains dans le conduit. Moi, si tu viens avec moi en menuiserie, je vais t'expliquer la théorie et je vais te dire, vas-y, tu vas m'appeler, j'arrive pas. Bah, comment ça se fait? Je t'ai expliqué, je t'ai même montré. Ben, j'arrive pas. C'est pas possible. Si, c'est possible. Vas-y, réessaye encore. Et tu vas faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois, jusqu'à ce que tu réussisses. Jusqu'à ce que tu sentes les choses. Que tu passes de la théorie à comment ressentir profondément les choses. Ben, Jésus connaissait ça. Il a touché la matière des années durant. Je peux te dire que équarrir un arbre, équarrir, ça veut dire préparer l'arbre pour pouvoir le transformer. À l'époque, ce n'était pas avec des machines. Il fallait s'investir. Et Jésus dit, maintenant, vous avez vu tout ce que j'ai fait? Vous avez vu que ce que je fais, c'est du bien aux gens? Vous avez vu qu'en réalité, moi, je suis venu pour libérer ceux qui sont... J'ai abandonné ma propre famille. Je suis passé à autre chose. Je suis passé aux affaires de mon père maintenant. J'ai tout laissé. Je vous montre que c'est possible. Je vous montre que quand il y a un malade, j'opère la guérison parce que je l'aime. Quand il y a une situation difficile, je fais un miracle. Je vous ai montré que c'est possible. Bah, si tu veux être mon disciple, vraiment, sors de la foule. Marche derrière moi. Fais de l'œuvre de Dieu ta priorité. Arrête Netflix tous les soirs. Utilise ton temps autrement. Un athlète de haut niveau consacre chacune de ses minutes à son objectif, c'est-à-dire la victoire, atteindre eh bien, finalement la plus haute performance. Ses nuits sont consacrées par exemple, prenez un joueur comme Novak Djokovic, tennis, moi j'aime beaucoup le tennis. Ses nuits sont consacrées pour être le meilleur possible. La façon de se nourrir est consacré pour être le meilleur possible. Chacun de ses entraînements sont millimétrés pour être le meilleur possible. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de contraintes. Mais quand tu atteins l'objectif, la victoire, là, il est heureux. Il est heureux. Mais j'aimerais te dire que suivre Jésus, c'est impossible pour toi et moi. En tant qu'homme, c'est impossible. Et pourtant, la Bible nous dit « Soyez mes imitateurs. » Donc là, tu vas aller dans ton lieu personnel, tu vas dire « Jésus, quand je regarde le chemin qui est tellement long, quand je te regarde, toi, tu es tellement grand, eh bien Jésus, je te demande, s'il te plaît, le chemin est beaucoup trop long pour moi. J'ai besoin que tu marches avec moi. J'ai besoin que tu sois près de moi. J'ai besoin, la Bible nous dit, revêtez-vous de Christ. Tu te revêts de Christ pour affronter les situations, parce qu'en Jésus, il y a chacune de tes réponses, mais pas seulement pour ton bien-être personnel et pour être bien dans la foule et passer un bon moment, mais surtout pour toi donner aux autres. Toi, tu vas vivre des choses avec Jésus, c'est certain. Mais l'objectif principal, c'est que toi, tu puisses être une bénédiction en retour pour ton voisin. Alors, on a parlé de s'examiner soi-même. Pose-toi la question maintenant. Est-ce que je fais partie de la foule? Est-ce que je suis celui qui est intéressé par ce que fait Jésus ou pas du tout? Je m'en fiche. Je suis comme les pharisiens, j'observe avec jugement. Et dès qu'il va se passer un truc de mauvais, je vais lui tomber dessus. Ah, les chrétiens, ils sont comme ça. Ah, les chrétiens, ils ne sont pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Ah, lui, tu vois comment il a réagi. Tu es dans le jugement, la critique. Est-ce que tu es dans le côté des observateurs, les experts de la loi? Ceux qui connaissent tout mais qui mettent rien en pratique? Ou est-ce que tu es dans cette foule qui est admirative? Ah, Jésus, tu es incroyable, tu me bénis, tu me fais du bien quand je viens dans la louange. Mais au final, tu n'es pas plus actif que ça. Quel type de personne es-tu? Il faut pouvoir s'examiner soi-même. Il faut pouvoir faire le point sur notre vie. J'en suis où avec toi, Seigneur? Jésus, est-ce que réellement je suis prêt à être ton disciple? Ça veut dire abandonner certaines choses. Ça veut dire que tu deviennes ma priorité. Ça veut dire que réellement tu règnes au plus profond de moi. Quand je me lève le matin, je revais Christ. Quand je me couche le soir, je revais Christ. Quand je mange, je revais Christ. Quand je parle à quelqu'un, je revais Christ. Et quand ma parole fourche, Seigneur, je la ferme parce que là, ce n'est pas Christ. Je remets le manteau. C'est un style de vie, c'est un rythme de vie. C'est un engagement profond. Et Jésus, quand il est venu, il a vu le fond des cœurs des gens. Il a dit, vous, le jour du sabbat, mais vous, vous honorez votre Dieu d'élèves. mais pas du fond de votre cœur, parce que sois guéri. Lui était profondément bon. Ça, c'est Jésus que moi, je veux suivre. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez disqualifié. Tes choix, tes priorités, les choses que tu décides dans ta vie, parfois te disqualifient en tant que disciple. Tu prends certaines décisions qui te disqualifient. Alors comment est-ce que je peux prendre les bonnes décisions qui vont me qualifier à être un bon disciple de Jésus ? À apprendre à mettre la main à la pâte, à apprendre à avoir la compassion qu'il avait, l'amour qu'il avait, à réfléchir comme il réfléchit, à plus regarder qu'à mon besoin, mais quel est ton cœur, Seigneur ? Le disciple, c'est celui qui ne va pas être intéressé par la main de Dieu, l'action de Dieu, mais c'est celui qui va être intéressé par le cœur de Dieu et ce qui y réside. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui dans ma famille ? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui autour de moi ? Je suis disponible, Seigneur. Aide-moi parce que c'est trop difficile pour moi. Je me revais de Christ. Et là, je commence à vivre une vie avec toi. Je commence à marcher avec toi. Et je commence à agir et plus juste observer. Observer. Wow, c'était bien. Soyez donc les imitateurs de Dieu, Éphésiens 5, verset 2. Puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Soyez les imitateurs de Dieu en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande, un sacrifice dont l'odeur est agréable. Ce que Dieu te demande en te disant « abandonne tout, mets-moi à la première place », il l'a lui-même fait. Il ne te demande pas quelque chose que lui-même n'a pas fait. Lui, il a tout abandonné et il s'est engagé envers toi. Il s'est engagé envers toi pour que toi, tu puisses t'engager en retour. Et il dit, t'inquiète pas, je vais m'occuper de tes besoins. Tes besoins, je m'en occupe, t'inquiète pas. Mais maintenant, tu vas te concentrer sur mon œuvre. C'est tout l'inverse du fonctionnement de ce monde. C'est tes besoins, te réaliser personnellement. Là, il dit, t'inquiète pas, occupe-toi de mes affaires, je vais m'occuper des tiennes. Et attache-toi à moi. Et plus tard, vous allez voir les disciples qui vont dire, Jésus, il va dire ses paroles, et les disciples vont venir vers lui et vont dire, et Jésus va leur répondre, et va dire, et vous ? Quand Jésus a dit cette parole, beaucoup sont partis, beaucoup ont arrêté de le suivre. La foule, c'est comme disloqué. Certains l'ont suivi, d'autres ont arrêté. Et là, il va aller voir ceux qui étaient les plus fidèles, et il va leur dire, et vous, vous voulez partir aussi ? Vous voulez partir aussi ? Vous pouvez partir. C'est votre choix, c'est votre décision, c'est une décision personnelle. Je ne vous impose rien. Et là, qu'est-ce qu'ils vont lui répondre ? Ils vont lui dire, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Moi, je reste avec toi. Moi, je veux être ton disciple. Je veux rester avec toi. Tu as les paroles de la vie. Oh, c'est un bon programme quand même. Suivre Jésus, c'est une folie aux yeux des hommes. Mais Dieu t'a fait la grâce de pouvoir le faire, de pouvoir compter sur lui et de vivre une vie différente. Tellement différente. Et parfois, je me réveille le matin, je dis, Seigneur, est-ce que je suis revêtu de toi en ce moment ? Et je vois que je suis préoccupé par toutes sortes de choses. Je dis, Seigneur, ça t'appartient. Je prie, je vais m'occuper, je vais affronter la réalité, mais règle ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut être démissionnaire. Hein ? Mais je dis, Seigneur, je ne vais pas abandonner ma paix, ma joie dans toutes ces futilités. Ma paix et ma joie sont en toi maintenant, et je veux marcher avec toi. Parce que là, il y a des belles choses à voir. Et là, quand je vois Dieu qui commence à agir dans la vie des gens autour de moi, je dis, ah Seigneur, c'est tellement bon de te voir à l'action. Et ça me remplit de joie parce que là, j'ai gagné une victoire. J'ai abandonné quelque chose, mais là, j'ai touché quelque chose de divin. Et pas que pour moi, mais pour les autres surtout. Voilà le programme. Vous me suivez dans ce programme ? L'engagement envers Dieu va forcément humainement contraindre ta vie. Entrer dans la prière, c'est du temps que tu mets à part pour Dieu. Ça te contraint. Mais si tu ne passes pas au-delà de cette contrainte, tu ne trouveras pas la présence de Dieu. La Bible nous dit que, eh bien, il y a un voleur qui vient pour te voler. Il vient te voler. La plus grande chose qu'il peut te voler, c'est ton temps. Parce que le temps qu'on va te voler, c'est le temps que tu ne passeras pas avec Dieu. Et le temps que tu ne passeras pas avec Dieu, c'est le temps où tu vas perdre cette paix, tu vas perdre cette joie. Tu ne vas pas le découvrir. Mais la Bible nous dit aussi que le temps que tu investis dans le royaume de Dieu, ben Dieu, c'est qui ? C'est celui qui est capable de racheter le temps. C'est-à-dire que tu gagnes du temps ailleurs. Passe 3 heures dans la prière. Je peux t'assurer que tes problèmes vont être réglés plus rapidement. Tu investis là, tu gagnes là. Et parfois, c'est exponentiel. Hein. Ah, moi, ça m'intéresse. Ah, Jésus. Il est question de priorité. Quelles sont tes priorités ? Examine-toi toi-même. Quelles sont tes priorités ? Est-ce que réellement tes priorités, c'est de pouvoir suivre le Seigneur ? Ou est-ce que c'est tout autre chose ? Et Seigneur, c'est juste te garde là au cas où il y a un problème. C'est une petite assurance. Voilà. J'ai un petit problème, Seigneur, je te sors de la poche. Jésus est bon, il t'aime, il va te bénir. Je peux t'assurer que... Je vais vous donner un témoignage. J'avais un collègue. Il arrive comme ça dans l'atelier. Et puis là, il commence à parler, mais vulgairement, à me parler de femmes, de ci, de ça. Je me suis arrêté, j'ai dit, écoute-moi, tu as 2 yeux. Tes 2 yeux, c'est pour ta femme. Mes 2 yeux sont pour ma femme. Donc devant moi, tu ne parles pas comme ça. J'en pouvais plus. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. 4 jours, je dis, t'arrêtes. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis le temps passe, et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Problème. Qui est-ce qui vient voir ? Alexis. Alexis, j'ai des problèmes, qu'est-ce que je dois faire ? Ben, je dis, je vais prier avec toi. On va prier ensemble. On prie Dieu ensemble. Dieu l'a béni dans son couple. La maison bougeait dans tous les sens. On est allé prier dans la maison, la paix est venue dans la maison. Il avait des dettes. On a prié pour les dettes. Les dettes ont été épongés en quelques semaines. Sa femme est venue ici dans le hall d'entrée. Pierre Wildor a prié pour eux parce qu'elle avait une attelle, elle a été guérie. Il a vu la bonté de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Tous les domaines de sa vie. Parce que Dieu est bon. Partout où il peut bénir, il bénit. Partout où il y a la foi, il manifeste sa gloire. Et puis après, je dis, tu sers le Seigneur ? Ah non, 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 tu sais, c'est compliqué. Je dis, moi, je ne peux plus rien pour toi. Je t'ai présenté un Dieu puissant, je t'ai présenté un Jésus. Tu fais ce que tu veux maintenant. Ça reste un choix personnel. Dieu est vivant. Il veut agir en nous. Il veut se manifester. Il veut faire des grandes choses. Alors, posons-nous la bonne question. Où sont mes priorités ? Est-ce que je marche vraiment dans la victoire ? Est-ce que mes pensées sont tournées vers le Seigneur malgré les difficultés ? Je ne te dis pas qu'il faut tout abandonner. Je te dis qu'il faut déposer à la croix tes difficultés. Seigneur, tu es mon essentiel. Tu vois ça, je te le remets. Je ne sais pas comment agir, j'ai besoin de toi. Mais je ne veux pas arrêter de marcher avec toi. Je ne veux pas camper. Je ne veux pas mettre la tente et m'arrêter. Je veux continuer de marcher. Peut-être que tu vas être comme Élie, tu vas être fatigué. Et là, Dieu, il va dire, regarde, vas-y, mange. Le chemin est trop long pour toi, mais tu vas voir, avec moi, c'est possible. Ça veut dire que devant toi, il y aura tellement d'impossibilités, mais en Dieu, tu as la réponse. Alors, essaie pas de trouver une autre solution. Passe du temps avec lui. Cherche-le dans l'intimité. Et après, quand on se réunit ensemble, ah là, c'est la joie. Parce que Sandy, elle va me dire, wow, « Moi, j'ai vécu ça. Toi, tu vas me dire, moi, j'ai vécu ça. Toi, tu... Oh, il est incroyable, ce Jésus. » Et là, il y a des beaux témoignages qui nous font du bien.